les jardinières.
Il est temps de prendre soin de son potager et de ses espaces verts. Et qui de mieux pour le faire que les jardinières? Soyez les bienvenus. Bonjour Brian.
Bonjour Mylène.
Ce matin, c'est Katiou Racine qui répondra à toutes nos questions. Bonjour Katiou.
Bonjour.
Katiou Racine, vous êtes jardinière et guide de randonnée nature à Delémont. On peut suivre vos aventures sur les réseaux sociaux sous le nom Rendez-vous avec soi-même. Merci d'être avec nous ce matin.
Et bon réveil à vous, on est parti pour une heure de jardinage.
7h, 8h, les jardinières.
Et c'est déjà le tout dernier jour du mois d'août, l'automne n'est plus très loin. Alors Katiou, avant de ramasser des noix et des feuilles mortes, qu'est-ce qu'on peut faire au potager ces prochains jours ?
Oh, il y a encore vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire parce qu'on est presque en pleine saison, je dirais, malgré la chaleur. C'est justement... Là que je voudrais en venir, l'idéal maintenant, ça serait de penser à bien biner les jardins. On dit toujours qu'un binage égale deux arrosages. Donc vu qu'on essaie quand même d'économiser un petit peu d'eau quand il n'en tombe pas forcément beaucoup, l'essentiel, ça serait de casser un petit peu cette croûte qui est sur le dessus de notre potager, parce qu'avec la chaleur, il se forme une espèce de croûte. Et puis quand on arrose ou bien quand il pleut, le problème, c'est que l'eau, en fait, va ruisseler et va pas forcément descendre tout de suite au pied de la pente. Et puis, ça va faire des petits ruisseaux qui vont aller se perdre, entre guillemets. Alors, si on casse un petit peu cette croûte avec un petit outil, on permet à l'eau vraiment de s'infiltrer dans le sol et puis d'arroser convenablement la plante et puis de pas perdre de l'eau, si on veut bien, qu'elle soit du robinet ou bien du ciel, c'est égal.
Merci Katiou, vous restez avec nous jusqu'à 8h pour entre autres répondre aux questions de nos auditeurs. Des questions qu'on attend par téléphone au 0901 70 20 20, par SMS, vous tapez jardin, un espace et votre question et vous envoyez le message au 939 ou alors par formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières avec la possibilité cette fois de joindre une photo à votre question.
Et ce matin nous allons apprendre à bouturer nos plantes vivaces aromatiques. Les conseils de Katiou, ça sera juste après la pause musicale.
7h, 8h, les jardinières.
La fin de l'été est le moment idéal pour donner une nouvelle vie à votre jardin. Et justement, on peut le faire grâce au bouturage. Alors Katiou, avant d'entrer dans les détails et nous expliquer comment faire des boutures sur des plantes aromatiques vivaces, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, c'est quoi le bouturage ?
C'est quoi le bouturage ? Alors, c'est pas très compliqué. En fait, le bouturage, c'est une façon de multiplier les plantes, quelles qu'elles soient, et des plantes plutôt vivaces par chez nous, mais on pourrait le faire aussi avec des annuelles, bien sûr, si après on peut les mettre à l'intérieur. En fait, on va multiplier les plantes existantes en prélevant un fragment ou un morceau de la plante. Ça peut être différentes parties. On peut faire des boutures de tiges, on peut faire des boutures de feuilles, on peut faire des boutures de racines, on peut faire des boutures qu'on appelle boutures d'œil. Donc ça veut dire qu'on prendra juste un œil de la plante pour le bouturer. Enfin voilà, c'est vraiment le but, c'est de prélever un morceau de plante qui est très sain, d'une plante vigoureuse, et puis on va multiplier ces plantes à l'infini. On peut faire, si on prélève 10 fragments, ben on pourra faire 10 plantes après. Donc c'est la multiplication d'une plante.
Merci Katiou. Pourquoi est-ce qu'on pourrait choisir cette période de l'année pour bouturer les plantes aromatiques vivaces ? Pourquoi c'est l'une des meilleures périodes justement ?
Alors, théoriquement, c'est une des périodes où le chaud commence gentiment de baisser. Ben, je pense que ça va arriver tantôt. C'est la période de l'année également où les plantes reprennent. Comment est-ce que je vais expliquer ça ? Les plantes au printemps, en fait, elles se mettent en croissance, si on veut bien. Après, elles font une pause en été. Et puis, à l'automne, elles se remettent en croissance. Donc, c'est l'idéal de prélever les boutures à ce moment-là. Parce que c'est le moment où la plante est vraiment la plus vigoureuse, donc on aura vraiment des tiges vigoureuses. Et puis en plus, vu qu'il fera un peu moins chaud, ça permet aussi de faire les boutures dans des conditions idéales, de ne pas devoir surveiller vraiment les températures, et il ne fait non plus pas encore trop froid. Donc on est juste maintenant dans une période où c'est intéressant de faire ça pour des questions climatiques et de vigueur de la plante, si on veut bien.
Et justement, Katiou, quelles plantes aromatiques sont particulièrement adaptées à cette technique ?
Alors, le bouturage, il fonctionne je dirais, sur toutes les plantes aromatiques. Après, il y en a certaines qui sont peut-être un petit peu plus faciles que d'autres. Par exemple, on parle du romarin, on parle du thym, la sauge, la menthe. Tout le monde a déjà remarqué que la menthe se propage à la vitesse de la lumière. Donc, elle, pour faire des boutures, elle est vraiment intéressante. Elle n'a pas besoin de nous. Et puis, si on prend un petit bout de menthe et puis qu'on va le mettre ailleurs dans le potager, en général, c'est une façon de bouturer. Et ben, elle va repartir facilement. Il y a la lavande qu'on peut utiliser aussi, la mélisse, l'origan, puis la verveine. Et puis, il y en a encore tout plein, mais c'est celle qu'on a le plus chez nous, je dirais.
Donc, vous l'avez dit, le bouturage, il permet de multiplier des plantes. On peut vraiment le faire sur toutes les plantes, donc les jeunes, les vieilles, les malades?
Non, il faut vraiment essayer de choisir des plantes qui sont vraiment saines et puis qu'on trouve particulièrement vigoureuses. On parlait avant d'un romarin qui est orantaine, qui est presque mort ou qui est mort. C'est clair que là, s'il reste une tige verte sur ce romarin et puis qu'on va la prendre puis essayer de faire une bouture avec ça, on aura quand même peu de chances qu'elle reprenne, même si ce morceau-là est encore vert, parce que finalement, peut-être à l'intérieur de la tige, il y aura déjà quelque chose de malade. Donc, il faut vraiment avoir des plantes qui sont saines et puis qui sont sans maladie, qui sont vigoureuses.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, chez les jardinières, nous multiplions les plantes aromatiques vivaces grâce au bouturage, une technique accessible à tous les jardiniers. Et pour réussir nos bouturages, voici les conseils de Katiou Racine, jardinière et guide de randonnée nature à Delémont. Alors Katiou, de quoi avons-nous besoin pour démarrer notre bouturage?
Pour démarrer notre bouturage, on va imaginer là qu'on a une belle plante de romarin et puis on aimerait bien en faire quelques-unes d'autres pour mettre ailleurs dans son jardin. Donc on va avoir besoin d'abord de matériel qui est quand même indispensable pour que ça se passe bien. Il faudra soit une paire de ciseaux ou bien un petit sécateur, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de bien grand parce que c'est des tiges qui sont assez fines qu'on va prélever. Il faudra des récipients avec de l'eau, par exemple si on veut faire tremper les boutures, parce que c'est aussi possible de mettre ces boutures à tremper dans de l'eau pour qu'elles fassent des racines et ensuite les mettre en terre. On pourra aussi avoir des pots avec de la terre pour repiquer ces boutures. Donc là, c'est dans le cas où on le fait directement dans la terre. Et puis, on aura des bouteilles en plastique, en PET, des anciennes bouteilles PET, pour faire des petites serres.
Et puis, comment est-ce qu'on peut choisir la bonne tige à bouturer?
Alors, comme on a dit avant, il faut vraiment déjà trouver des tiges qui sont saines et puis qui sont bien costauds, qui sont déjà assez grandes en longueur, parce qu'on va avoir besoin d'une tige à peu près de 15 cm. Là, je parle pour le romarin, mais c'est aussi valable pour le reste des plantes qu'on a citées avant, hein, par exemple la lavande ou la verveine ou autre. Donc, on pense à peu près à une quinzaine de centimètres. Et puis, on va couper cette tige sous un œil. Un œil, c'est, si on regarde une tige, bon, sur le romarin, c'est pas évident à expliquer, mais par exemple, si on regarde sur une tige de pommier, un œil, c'est là où il y a la feuille qui a apparu, si on veut bien. Puis en dessous, il y a toujours un autre œil, il y a toujours un petit renflement. Donc on va essayer de couper vraiment sous ce renflement. Ensuite, on va bien dégager le bas de la bouture pour pas que les feuilles touchent la terre. Donc le romarin, on va vraiment le peler, je dirais, sur la moitié de la bouture, voire même les trois quarts. On va vraiment laisser juste le haut, les feuilles. Puis ça, c'est valable absolument pour toutes les boutures. Il ne faut pas laisser trop de feuilles. Ensuite, on va mettre soit la tige dans l'eau quelques jours pour faire des racines, soit directement en terre. Et puis, on va mettre ces boutures, celles qui sont dans l'eau, ben, au bout d'un moment, quand il y aura des racines, on va mettre en terre, on va mettre toutes ces petits pots ensemble. Et puis, on va les mettre bien à l'abri du soleil pour les laisser prendre racine tranquillement.
Et puis, est-ce que là, on les laisse tranquilles, mais il y a des soins à apporter durant cette période?
Alors justement, j'ai dit qu'il fallait garder des bouteilles en PET. L'idéal, c'est de couper ces bouteilles et puis de faire une petite serre sur la bouture. Pourquoi ? Parce que ça favorise le développement racinaire de la plante. Ça va permettre aussi de pas trop les arroser parce que c'est un petit peu délicat justement l'après, en fait, l'entretien de la bouture. C'est qu'il faut ni trop arroser ni trop peu. Donc si on met dessus une bouteille en PET, on va produire une espèce de microclimat qui va faire transpirer, en fait, qui va donner des gouttes sur cette petite serre et puis qui va permettre d'avoir un climat toujours bien humide sur ces boutures. Bien sûr, il faut toujours surveiller. De temps en temps, il faut aller voir si ça pourrit pas, s'il n'y a pas trop d'humidité. Enfin, voilà. Mais il faut vraiment être vigilant avec l'arrosage.
Et puis, Katiou, quelles sont les erreurs à éviter lors d'un bouturage ?
Alors, lorsqu'il y a un bouturage qui est en train de se faire, il faut faire justement attention à limiter l'évaporation parce que la plante, elle transpire en fait par son feuillage. Et puis, comme je disais avant, si on laisse trop de feuilles sur la bouture, en fait, elle va s'assécher avant même d'avoir pu développer ses nouvelles racines. Elle va transpirer, s'assécher et puis en fait, elle ne va pas pouvoir développer des racines. Donc, comme on a dit avant, il faut vraiment enlever sur la tige que vous mettez à bouturer au moins 2/3 des feuilles. Donc, on va laisser juste 1/3 en haut. Une fois que la bouture est en place, on va éviter de les déplacer. On va leur trouver une place bien dans la maison. Mais attention, ne mettez jamais des boutures au soleil parce qu'on va de nouveau dans cette histoire d'évaporation et de transpiration. L'idéal, c'est ombre, mi-ombre, puis pas de courant d'air. Et puis, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas aller tirer dessus parce qu'on a tendance à vouloir aller voir s'il y a des racines qui se sont faites. Alors, on va tirer dessus pour voir si ça résiste. Et en fait, chaque fois qu'on tire dessus, on va casser les petites racines qui sont peut-être pas encore assez fortes pour tenir, mais qui sont déjà là. Donc, c'est vraiment, il faut avoir de la patience.
Les jardinières.
Tous les samedis entre 7h et 8h, vous avez la chance de vous réveiller en compagnie des jardinières et de leurs invités. Ce matin, nous sommes en compagnie de Katiou Racine, jardinière et guide de randonnée nature à Delémont. On peut d'ailleurs vous suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Rendez-vous avec soi-même.
Dans cette deuxième partie d'émission, Katiou, vous allez répondre aux questions jardinage, des questions que vous pouvez nous poser directement par téléphone. Ça se passe au 0901 70 20 20, mais aussi en remplissant le formulaire sur notre site sous l'onglet émissions questions aux jardinières, ou alors par SMS, vous tapez jardin, un espace suivi de votre question et de votre nom, et vous nous envoyez ce message au 939.
Katiou, avant de répondre aux questions de nos auditeurs, on va revenir un petit peu sur le bouturage des plantes aromatiques vivaces. Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure des erreurs à éviter lors du bouturage. Surtout, on ne tire pas la plante pour voir si elle a fait ses petites racines. On fait attention à sa transpiration, à l'arrosage. On ne la met pas en plein soleil. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour éviter de faire capoter un bouturage ?
On a à peu près tout dit. Il faut vraiment faire attention on a vraiment tendance à se dire, ah bah tiens, on les met au soleil, ou bien on les met partiellement au soleil, parce que le soleil, c'est bon pour les plantes, elles en ont besoin. Et pour le bouturage, elles en ont absolument pas besoin. Donc ça, je pense, c'est vraiment le premier ennemi. Et puis, c'est juste la chose qu'il faut penser, c'est de pas les mettre au soleil. Ensuite, ben, bien sûr, s'il va commencer à faire froid chez nous, c'est toujours assez soudain. Hein. Tout d'un coup, au mois de septembre, on commence d'avoir des températures nocturnes qui sont un peu fraîches. Donc, attention, pensez à les rentrer. Et puis, on parlait de l'excès d'humidité, parce que la pourriture. Donc, c'est vraiment un peu les choses qui sont compliquées. Et puis, bien sûr, une plante en bonne santé, parce que si on a déjà une plante qui est faible, ben, ça pourrait vraiment faire capoter notre bouturage.
On bouture maintenant, Katiou, on est fin août, début septembre. Quand il va commencer à faire très froid, hein, vous l'avez un peu évoqué, est-ce que toutes les plantes doivent être rentrées ou elles ne seront pas assez vigoureuses, solides pour rester en extérieur dans nos hivers si froids ?
En parlant de bouturage, donc.
Oui, par exemple, on bouture un romarin maintenant. Est-ce qu'en décembre, on doit le rentrer ?
Ça serait mieux, parce que c'est pas sûr qu'il ait fait, il aura peut-être 3 ou 4 mois d'enracinement. Après, on peut aussi vraiment se fier à notre instinct, parce qu'on va voir, quand une bouture démarre, la meilleure chose qu'on va voir, c'est qu'elle va pousser. Donc, si on voit qu'un romarin a poussé de 30, 40, 50 centimètres, et puis qu'il a vraiment, c'est presque une plante à lui tout seul, on va pouvoir le rempoter dans un pot, puis le laisser dehors, et puis le mettre à l'abri du gel. Mais il faut vraiment être observateur, et puis voir où en sont nos boutures dans leur croissance.
Et Katiou, est-ce que vous avez un dernier conseil aux personnes intéressées à se lancer dans le bouturage des plantes aromatiques vivaces ?
Pour avoir une pleine réussite, on parle souvent d'hormones de bouturage, on trouve ça dans les commerces, et puis en fait on peut faire soi-même une hormone de bouturage en faisant une eau de ronces, donc les ronces qu'on trouve dans la nature. La ronce possède de l'auxine, et puis l'auxine c'est une hormone naturelle végétale qui régule la croissance puis le développement des plantes. Donc on va aller chercher quelques racines de ronces, donc là on parle vraiment des racines, on va les laver, les couper en petits morceaux. On va mettre ces petits morceaux dans un récipient plastique ou bien en verre, c'est égal. On va ajouter suffisamment d'eau, de l'eau de pluie de préférence, et puis on va recouvrir nos morceaux de racines. On va couvrir le récipient avec un film plastique perforé pour qu'il y ait un petit peu de circulation d'air, et puis on va laisser ça à peu près une semaine. En fait, on va faire une infusion de racines de ronces. On va enlever ces morceaux de racines et puis en fait, on va tremper simplement le bout des boutures avant de les mettre en terre. On va les tremper dans cette eau de racines de ronces et puis ensuite, on va la planter. Ça va favoriser l'enracinement des plantes. Et puis, j'ai trouvé une jolie citation sur Internet. Pour que l'alchimie du bouturage fonctionne, acceptons de plonger dans le temps propre aux plantes. Troquons donc notre impatience contre leur résilience. Et je trouve que c'est super parce que c'est exactement ça. Essayez, mais soyez patient. Et puis en plus, vous aurez des jolis cadeaux à offrir à Noël, à mettre sous le sapin. Par exemple, une petite bouture de romarin. Ben, je trouve que c'est un chouette cadeau.
Et ça prend pas trop d'argent et pas trop de temps, mais de la patience.
Et puis c'est fait maison en plus, donc c'est chouette.
7h, 8h. Les jardinières.
Chaque samedi, les jardinières sont là pour vous et pour répondre à vos questions jardinage. Vous avez encore un bon gros quart d'heure pour nous faire parvenir vos questions. Trois possibilités pour le faire. On va les rappeler, Brian.
Et oui, la première, c'est par téléphone. Vous aurez la chance de parler directement avec Katiou. Ça se passe au 0900 70 20 20. Mais vous pouvez aussi remplir le formulaire sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières, ou alors par SMS. Vous tapez jardin, un espace suivi de votre question et de votre nom, et vous nous envoyez ce message au 939.
Katiou, on a reçu une question de Christophe de Kourou qui nous dit: je possède trois pommiers, un Spartan, un Jonagold et un Arriva. Comme constaté dans d'autres vergers de la région, les pommes tombent bien qu'elles ne soient pas encore mûres. Alors voici ces questions, il y en a deux. Pourquoi ces fruits tombent-ils autant en cette période? Et puis une autre question: comment savoir quand les fruits sont vraiment mûrs et qu'il faut les cueillir? Alors on va peut-être prendre cette première question. Pourquoi est-ce que les fruits tombent maintenant?
Comme on a pu le voir cette année, les pommiers sont extrêmement chargés de fruits. Il y en a d'ailleurs beaucoup trop sur ces pommiers. Hein. Souvent, on voit que les gens ont fait des cottes, ont mis des petites planches dessous pour essayer de récolter le maximum. Puis en fait, le problème, c'est que quand on laisse trop sur quelque arbre qu'il soit, quelque fruitier, en fait, il n'y a rien qui va arriver à maturité parce que l'arbre n'a absolument pas du tout la force pour mener à bien toute cette récolte. Il faut savoir que quand le pommier est en fleur, il y a une fleur sur 20 qui est nécessaire. Donc quand on voit qu'ils sont blancs, blancs ou roses, hein, ça dépend des pommiers, on voit toutes ces fleurs, il faut bien s'imaginer qu'il y en a déjà qui doivent tomber. Donc il va déjà tomber des fleurs à la floraison, c'est déjà un premier éclaircissage. Ensuite, les pommes vont commencer de se développer, et puis là, il faudrait prendre le temps, ça dépend un peu du temps qu'on a, puis de la grandeur de l'arbre aussi, de refaire de nouveau un deuxième éclaircissage, c'est-à-dire qu'il faudrait enlever une pomme sur deux pour laisser vraiment la place à ces pommes pour pousser. Et puis si on ne le fait pas, ben en fait l'arbre il va faire ça lui-même. Il va simplement faire tomber, quand elles sont trop serrées, il va faire tomber les pommes qui sont les plus petites et puis celles qui ont le moins de graines, il va les faire tomber pour laisser la place aux autres. Donc c'est vraiment un réflexe complètement naturel et puis qui est très bien fait par la nature, parce que sinon il n'y aurait aucune pomme qui serait mangeable si tout restait sur l'arbre.
Merci beaucoup, Katiou.
Il y avait encore la suite de la question, pardon. Il demande comment savoir quand les fruits sont vraiment mûrs et qu'il faut les cueillir, à part goûter.
Eh bien, franchement, à part goûter, moi, je ne sais pas trop. Après, on voit quand on prend une pomme dans la main qui est sur le pommier puis qu'on la tourne un peu, si elle est mûre, elle va se décrocher très facilement. Si on doit commencer à tirer dessus et puis d'arracher la moitié de la branche pour essayer de goûter la pomme, c'est que c'est de toute façon pas mûr. Donc c'est un peu, il y a l'œil hein, aussi, s'il a l'habitude de ses pommiers. Je ne sais pas quel âge ils ont ces pommiers, mais on voit aussi la coloration. Évidemment, puis ça, si on n'est pas très sûr, on peut bien sûr aller regarder sur Internet. On prend par exemple la jaune à gold, puis on va voir la couleur qu'elle aura à maturité. Comme ça, on peut regarder sur l'arbre si c'est prêt ou pas. Et puis il y a juste une chose aussi, il faut faire vraiment attention au manque d'eau. On est beaucoup en manque d'eau ces temps. Les pommes tombent aussi beaucoup parce que ça manque d'eau. Donc il faut un petit peu arroser ces pommiers, mais pas trop non plus.
Merci beaucoup, Katiou. Et puis, on a reçu cette question de Claire de La Chaux-de-Fonds qui aimerait bien savoir s'il faut tailler ses clématites et si le cas échéant, quand faut-il le faire ?
Alors, les clématites, pour le moment, moi, je ne le ferai pas parce que, pour ma part, dans mon jardin, elles sont encore en fleurs. Donc, ce n'est pas le moment de faire ça. En plus, maintenant, elles ont de nouveau un pic de croissance. Donc, pas pour le moment. Je trouve que c'est mieux de laisser vraiment passer l'hiver. Après, ça dépend aussi de la grandeur de la plante. C'est toujours un petit peu difficile sans voir. Si on a une plante qui n'est pas trop grande et puis qu'on n'a pas besoin vraiment de l'endroit où elle pousse, je trouve bien de la raccourcir de 2/3 au début de l'hiver. On enlèvera parce que de toute façon, elle aura séché. Et puis ensuite, on va laisser la reprise au printemps. On va laisser cette plante reprendre. Et puis, on va tout de suite voir où il y a des pousses. Et on enlèvera en fait tout ce qui est sec. C'est, je pense, la façon la plus simple de laisser la plante s'épanouir par elle-même et puis de l'aider en enlevant ce qui est franchement inutile.
Merci, Katiou, pour vos précisions sur ces clématites. On va parler de tomates. Alors, les tomates, chez certaines personnes, sont encore vertes. Mais chez cette personne, elles sont toutes vertes. Il y en a beaucoup. Ils en ont récolté peu. Ils vivent à 700 mètres d'altitude. Que faut-il faire ? Les laisser sur le pied ? Avez-vous d'autres conseils ?
Alors, pour le moment, je pense qu'on peut vraiment encore les laisser sur le pied parce qu'on a encore des belles journées. Il faut juste faire attention à surveiller peut-être un peu les maladies. S'il recommence de faire un peu frais et humide le matin, peut-être il y a le mildiou qui va arriver par là au milieu. Donc, bien surveiller que les feuilles ne se tachent pas. Sitôt que les feuilles se tachent, on les coupe. On les met surtout pas au compost, parce que le mildiou est une maladie cryptogamique, donc ça se transmet. On va mettre ça dans un sac poubelle et directement dans la poubelle. Et puis, l'idéal aussi, c'est de dégager vraiment, personnellement, sur mes tomates, j'ai enlevé toutes les feuilles, pratiquement jusqu'en haut. J'ai coupé toutes les feuilles afin que la plante se concentre vraiment sur les fruits. Et puis, ça fait une circulation d'air, donc ça évite aussi la maladie. Et puis, ça permet aussi au soleil de vraiment cogner sur ses tomates et puis peut-être de les colorer. On pourra aussi, en fin de saison, éventuellement les récolter et puis les mettre avec des pommes, parce que les pommes les aident à mûrir. Et puis, ce qui est aussi important, lors de votre choix de plantons, de regarder vraiment que ça soit des tomates précoces, parce que chez nous ça va quand même long, on peut les planter que très tard, et puis souvent elles ont du mal de mûrir parce qu'on arrive tard dans la saison aussi, donc prenez des plantons de tomates précoces.
Les jardinières.
C'est la période pour bouturer vos plantes aromatiques vivaces et c'est justement ce que vous nous avez expliqué, Katiou, ce matin. Et si vous avez manqué, il faut que les mots sortent les uns après les autres, sinon ça ne va pas le faire, je recommence. Si vous avez manqué cette partie, vous retrouverez notre émission en podcast au complet, au cours de matinée sur notre site. Tout va bien. Katiou, avant de vous laisser filer bouturer du romarin, par exemple, c'est la fin de l'été, mais c'est aussi la grosse période de récolte. On imagine, par exemple, là, on veut récolter nos carottes, mais on ne va pas manger 5 kilos de carottes ce week-end. Comment est-ce qu'on peut stocker, les garder le plus longtemps possible ?
Oh, il faut déjà avoir, si possible, une bonne cave. Ça serait vraiment l'idéal d'avoir une bonne cave. Et puis, moi, je me rappelle que mon grand-papa, il les mettait dans un mélange de sable. Et puis, il mettait encore un autre truc avec. Je pense que ça devait être un peu tourbe. Et puis, il mettait ça dans des cajots qu'il mettait dans une cave qui était avec une humidité constante. Enfin, voilà, c'était les caves d'autrefois. Donc, aujourd'hui, c'est quand même compliqué de faire ça. Mais vous pouvez vous procurer si vous n'avez pas la super cave idéale, dans les supermarchés de la place, il existe des caisses en Sagex qui sont faites exprès pour conserver les légumes. Alors, bien entendu, on ne peut pas mettre ça sur son balcon en plein soleil. Hein. Il faudra quand même trouver un endroit qui est assez frais. Et on va mettre nos légumes là-dedans. On peut mettre autre chose que des carottes. On peut mettre aussi des pommes de terre, tout ça. Bien veiller à ne pas trop charger pour pas qu'elle s'écrase et puis pas que celle du fond pourrisse et puis qu'on ne le voie pas. Sur le côté, il y a des petits trous pour faire des aérations, donc on fera aussi attention d'avoir une bonne circulation d'air. Et puis on pourra garder nos légumes quelques semaines ou peut-être quelques mois dans ces conditions-là.
Et puis Katiou, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ce week-end au jardin ?
Ben, y a pas mal de choses à faire. Alors pour ceux qui ont vraiment des grands jardins, je pense que les récoltes vont bon train. Je crois que demain, ils annoncent un peu de pluie, donc on pourrait faire des conserves avec toutes nos récoltes. C'est aussi le moment, je pense, de penser à, pour ceux qui ont des petits bouts de prairies fleuries ou qui n'ont pas forcément un green de golf, penser de faucher pour que les fleurs se mettent en graines et puis se ressèment pour l'année prochaine. On peut aussi commencer de tailler si on a des massifs de bambou, par exemple. J'en connais qu'on a bien besoin. Des massifs de bambou, on peut commencer d'un peu éclaircir tout ça. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire parce que mine de rien, on n'est pas très loin de la saison d'hiver. Et puis pour ceux qui ont des grands jardins, il y a quand même beaucoup, beaucoup de travail dans les jardins. Donc on peut commencer tranquillement maintenant de réduire un petit peu le travail qui sera tout à venir en même temps.
Et Katiou Racine, vous êtes jardinière et guide de randonnée nature à Delémont. Pour en savoir plus sur vos activités, rendez-vous sur les réseaux sociaux sous le nom de Rendez-vous avec soi-même. Merci pour votre visite et vos conseils et bon week-end.
Merci, bon week-end à vous aussi.
Merci Katiou. Samedi prochain, nous serons en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves. Et si vous avez des questions au jardinage, vous avez toute la semaine pour nous les faire parvenir, soit en remplissant le formulaire sur notre site, soit alors en nous envoyant un SMS. Bon week-end Brian.
Bon week-end Mylène.
Et bon bouturage. Bon week-end à toutes et à tous.
7h, 8h, les jardinières.